VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour le monde aujourd'hui, bienvenue dans cette édition du mardi 14 novembre 2023. Avec vous, Eric Manelakidza, voici le sommaire. Bilan encore provisoire de l'attaque à Zaongo dans le centre-nord du Burkina Faso le 5 novembre. 70 morts, dont des enfants et des personnes âgées. Des auteurs restent inconnus selon le procureur. Boni Yayi fait un retour politique remarqué au Bénin en tant que président du Parti des démocrates et chef de file de l'opposition.
Prendre en main la mission historique qui incombe aujourd'hui aux démocrates, parti du peuple.
George Weah et Joseph Boakai s'affrontent lors d'un second tour crucial pour la présidentielle au Libéria. Promesse électorale au Gabon pour août 2025 sous condition d'une conférence nationale inclusive. Le Burkina Faso lutte contre la pollution persistante des déchets plastiques malgré une législation en vigueur.
Nous intervenons principalement autour de quatre axes, c'est-à-dire l'éducation environnementale, la gestion des déchets et assainissement, recyclage, l'énergie renouvelable et l'entrepreneuriat environnemental.
Joe Biden appelle Israël à protéger l'hôpital Al-Shifa de Gaza, où les déplacés sont pris au piège par des combats entre l'armée israélienne et les combattants du Hamas. Dans 10 minutes, vous suivrez l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Au Burkina Faso, les chiffres officiels encore temporaires signalent un premier bilan de l'attaque à Zaongo dans le centre-nord le 5 novembre. 70 personnes ont perdu la vie d'après le procureur du Faso près le tribunal de grande instance d'Okaya. La plupart des victimes sont des enfants et des personnes âgées. À ce stade, les responsables de ces attaques meurtriers demeure inconnu, déclare le procureur de Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Dans son communiqué lundi soir, le procureur du Faso affirme que les premiers résultats des constatations d'usage ont permis de dénombrer provisoirement 70 personnes tuées, essentiellement des enfants et des personnes âgées, hommes et femmes, et des concessions incendiées ou partiellement détruites. Il poursuit que la suite des investigations à travers l'audition des parents des victimes et des blessés permettra de préciser le nombre exact de morts, de blessés et de personnes disparues. Les auteurs de ces atrocités demeurent pour le moment inconnus, a écrit le procureur Simon Nyanou, précisant que les enquêtes se poursuivent pour leur identification. Le procureur a salué la détermination des forces de défense et de sécurité qui a permis le transport sur les lieux en procédant à des déminages d'engins explosifs improvisés tout au long du cheminement et en repoussant une attaque contre le convoi. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Dimanche, l'Union européenne a évoqué ce massacre et un possible bilan d'une centaine de morts, appelant les autorités de Ouagadougou à faire toute la lumière sur ces tueries. Le gouvernement américain, par la voix de la responsable des affaires africaines au département d'État américain, a pour sa part condamné cette attaque et demandé l'ouverture d'une enquête. Un sixième procès en France lié au génocide des Tutsis au Rwanda s'ouvre ce mardi à Paris. Un ancien médecin comparé devant la cour d'assises, soupçonné d'avoir participé au massacre de 1994, Sosten Mnyemana, 68 ans, aujourd'hui retraité sous contrôle judiciaire et jugé pour génocide, crime contre l'humanité, participation à une entente en vue de la préparation de ces crimes, ainsi que pour complicité. Son procès est prévu jusqu'au 22 décembre et l'accusé, qui contestait les faits, encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Au Gabon, les militaires au pouvoir ont annoncé hier les échéances électorales pour août 2025, conditionnées par une conférence nationale inclusive. Alexandrine Relognon.
Août 2025, élections et fin de la transition, a annoncé sur la télévision nationale le porte-parole du pouvoir militaire, le lieutenant-colonel Ulrich Manfumbi. Ce calendrier doit d'abord être soumis à un dialogue national inclusif, incluant toutes les forces vives de la nation, en avril prochain. Début juin 2024, le parlement de transition nommé par le président Oligui Nguema va se transformer en assemblée constituante, a ajouté le lieutenant-colonel Manfombi. Entre novembre et décembre, un projet de nouvelle constitution sera soumis à un référendum. Le général Oligui Nguema, depuis son arrivée au pouvoir, a rapidement nommé un gouvernement, une assemblée nationale, un sénat, une cour constitutionnelle. Une charte de la transition interdit aux membres du gouvernement, aux présidents des deux chambres et aux généraux membres du comité militaire de transition, présidé par le chef de l'État, de se présenter à la future élection présidentielle. Sauf M. Oligui Nguema, qui a récemment troqué l'uniforme pour le costume-cravate.
Alexandrine Rolognon, l'ancienne gloire du foot George Weah, élu à la tête du Libéria en 2017, dispute une partie annoncée serrée contre le vétéran de la politique Joseph Boakai au second tour d'une présidentielle dont le déroulement pacifique est un des grands enjeux. Jean-Roger Bion.
Les Libériens sont appelés aux urnes aujourd'hui entre 8 et 18 locales et JMT pour choisir entre le président George Weah, 57 ans, et Joseph Boakai, 78 ans, ancien vice-président de Lyndon Johnson Sirleaf. Monsieur Weah conserve son aura d'unique Africain désigné Ballon d'Or. Il se réclame de son action en faveur de l'éducation, de l'électrification des foyers, de la construction de routes et d'hôpitaux. Ses détracteurs l'accusent d'être déconnecté des réalités de ses concitoyens qui se débattent entre les hausses des prix et les pénuries. M. Boakai, qui lui impute l'aggravation de la corruption, met en avant sa probité et son acharnement au travail. L'entre-deux-tours a surtout consisté pour les deux camps à obtenir les ralliements, à commencer par les électeurs des 18 autres candidats, dont aucun n'a obtenu 3% au premier tour. Des affrontements pendant la campagne ont fait plusieurs morts et fait craindre des violences post-électorales. La commission électorale a 15 jours pour publier les résultats, mais selon Samuel Cole, un des responsables de la commission, l'affaire pourrait prendre beaucoup moins de temps.
À Madagascar, à moins de 3 jours de la présidentielle, 6 candidats de l'opposition, dont 2 anciens présidents, ont déclaré qu'ils ne vont pas participer au scrutin et appellent les Malgaches à ne pas se rendre aux urnes. « Je ne me présenterai pas au scrutin, c'est très clair », a dit l'ancien président Eri Radjuana Rimpampian. Même son de cloche du côté de Marc Ravalomanan. Le responsable des opérations humanitaires de l'ONU a dénoncé lundi les violences extrêmes contre les civils victimes de la guerre au Soudan et réclamé un accès sans entrave de l'aide humanitaire, notamment pour contenir une épidémie de choléra.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Joe Biden demande à Israël de protéger le principal hôpital de Gaza, près duquel se déroulent des combats qui opposent l'armée israélienne aux combattants du Hamas. Yacouba Ouedraogo.
J'espère et je m'attends à des actions moins intrusives à propos de l'hôpital Al-Shifa, a déclaré le président américain à la Maison-Blanche. Joe Biden dit être en contact avec les Israéliens sur le sujet. Il a souligné la négociation en cours pour la libération de prisonniers avec l'aide du Qatar. Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale, a souligné l'importance de protéger les patients et les hôpitaux, indiquant que Tel Aviv partage cette préoccupation. Les États-Unis appellent à des pauses prolongées dans les combats, s'étendant sur des jours et non des heures, a déclaré M. Sullivan. Selon un chirurgien du MSF, des centaines de personnes sont bloquées à l'hôpital Al-Shifa dans des conditions inhumaines. Israël affirme que le Hamas a utilisé les tunnels sous cet hôpital, ce que le Hamas dément. Alors que le bâtiment a été transformé en zone de guerre, les médecins et organisations humanitaires s'alarment du sort de milliers de civils et de malades.
L'administration de Joe Biden a indiqué lundi qu'il reportait la présentation d'un pacte commercial avec l'Asie qui devait être dévoilé cette semaine. Après avoir été confronté à une polémique au sein de son propre parti, le président américain qui arrive ce mardi à San Francisco pour la réunion annuelle de la coopération économique pour l'Asie-Pacifique APEC rencontrera à marge de ce sommet le président chinois Xi Jinping. Il devait annoncer des progrès substantiels sur un accord commercial encore balbutiant. Mais la secrétaire au Trésor Janet Yellen a déclaré qu'il restait encore du travail à faire sur la partie la plus controversée du cadre économique pour l'Indo-Pacifique, IPEF, à savoir le volet commercial. L'armée américaine a annoncé hier lundi annuler des condamnations qualifiées injustes de 110 soldats africains-américains décidées par une cour martiale après des violences au Texas en 1917. À la peine dans les sondages à quelques mois des élections, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a créé la surprise lundi en rappelant au gouvernement son prédécesseur David Cameron comme chef de la diplomatie.
Vous êtes à l'écoute du Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco présentée ce matin par Alexandrine Rolognon.
La Chine appelle les auteurs créanciers de la Zambie à assumer une charge équitable dans la restructuration de la dette de ce pays d'Afrique australe. Les créanciers officiels de la Zambie, dont la Chine et le FMI, avaient émis des réserves sur l'accord de principe conclu entre Lusaka et les détenteurs de ces euro-obligations sur la restructuration de plus de 3 milliards de dollars de dettes, selon un communiqué publié vendredi 10 novembre par le ministère zambien des Finances. La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a insisté lundi sur la nécessité pour les pays de l'Asie-Pacifique de coopérer pour financer la lutte contre le réchauffement climatique, de la transition énergétique au crédit carbone. Les 21 membres de la coopération économique pour l'Asie-Pacifique sont réunis à San Francisco pour leur sommet annuel. Janet Yellen a aussi cité parmi les priorités les marchés volontaires des crédits carbone et la manière dont les autorités peuvent contribuer à améliorer leur intégrité. Boeing a frappé fort lundi au premier jour du salon aéronautique de Dubaï, multipliant les annonces de commandes, dont un méga contrat avec Emirates pour 90 exemplaires de son futur gros porteur B777X. La compagnie, basée à Dubaï, a commandé 55 exemplaires des deux versions du 777X, le plus gros avion de la flotte du géant de Seattle.
Et sans transition, nous passons à votre page des sports avec Yakuba Ouedraogo. Bonjour Yakuba.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Le Sénégal effectue sa deuxième sortie aujourd'hui dans le mondial des moins de 17 ans en Indonésie.
Objectif pour les Lionceaux de la Teranga, une deuxième victoire de suite, cette fois-ci contre la Pologne, synonyme de qualification pour les huitièmes de finale. Les jeunes Sénégalais avaient réussi à s'imposer 2-1 contre l'Argentine lors de leur entrée en lice grâce à un doublé d'Amara Diouf, 15 ans. Après leur première défaite d'entrée 1-0 devant le Japon, les jeunes Polonais, eux, sont dans une opération relance. Hier, dans la poule A, le Maroc n'a pas pu enchaîner. Après leur premier match gagné contre le Panama 2-0, les Lionceaux de l'Atlas ont été battus sur le même score par l'Équateur. Le Maroc devra maintenant remporter son dernier match de groupe contre l'Indonésie, le pays hôte, jeudi, pour voir les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde des moins de 17 ans.
Rigobert Sang fait appel à de nouveaux lions indomptables pour pallier des forfaits.
Il s'agit de l'attaquant de Dynamo Douala, Léonel Christian Ateba, et le milieu de terrain du Coton Sport de Garoua, Jean-Éric Moursou. L'annonce est faite par la Fédération camerounaise de football sur la page Facebook des Lions Indomptables. Ces deux joueurs du championnat local viennent suppléer les forfaits de Vincent Aboubakar, blessé la semaine dernière avec Besiktas, et Olivier Kemen, lui aussi blessé avec Kayserispor. Ces nouveaux appelés portent à 5 les joueurs qui honorent leur première convocation avec la sélection camerounaise à la faveur des premières et deuxièmes journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le Cameroun joue son premier match contre l'île Maurice le 17 novembre au stade de Japoma.
Le sélectionneur du Maroc apporte aussi deux changements dans sa liste.
Walid Regragui a fait appel à deux renforts à 8 jours d'affronter la Tanzanie dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, nous informe le site AfriqueFoot. Le sélectionneur du Maroc a convoqué le défenseur central Jawad El Jamik, 31 ans, 29 sélections et 3 buts, et le milieu de terrain de Saint-Étienne, Benjamin Bouchouari, 22 ans, qui était déjà présent en mars. Même s'il n'a pas eu l'occasion de disputer ses premières minutes de jeu avec le Maroc, le stage des Lions de l'Atlas a commencé hier au Maroc. Walid Regragui et ses poulains vont regagner Dar es Salaam pour y affronter les Taifa Stars le 21 novembre dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires du Mondial 2026. Leur premier match contre l'Érythrée n'aura pas lieu, les Érythréens ayant déclaré forfait.
C'était les sports avec Yakuba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manela Kiza de retour avec vous pour les dossiers du jour. L'ex-chef d'État du Bénin, Boni Yayi, fait son retour sur la scène politique en tant que chef de file de l'opposition après avoir été élu président du parti Les Démocrates. Aux dernières législatives, ce parti s'est procuré près d'une trentaine de sièges. Les Béninois apprécient diversement ce comeback de Boni Yayi. Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adambé.
La carrière musicale de l'ancien président Boni Yayi n'aura duré que quelques mois, quelques singles et le revoilà en politique et pas à n'importe quel poste. Il est le président des démocrates, le plus grand parti de l'opposition. S'il était devenu chanteur parce qu'il a répondu à un appel divin, il a su qu'il revient sur la scène politique pour la gloire de Dieu.
Prendre en main la mission historique qui incombe aujourd'hui aux démocrates, parti du peuple, aussi mieux que par le passé. Devions-nous nous atteler à rallier toutes les forces politiques de l'opposition, les unir, les fortifier pour mener ensemble le combat de restauration de la démocratie.
Ce retour n'est pas du goût de certains qui y voient un moyen de prendre sa revanche après tout ce qu'il a subi à la fin de ses deux mandats constitutionnels à la tête du Bénin.
Nous sommes un peu fatigués du combat entre deux personnes pour un pays. Donc que les deux puissent au moins entrer en eux-mêmes et savoir qu'on a un pays à gérer. Ils ont un pays à gérer. Ils ont l'obligation de tout faire pour que la paix demeure dans le pays.
Moi, je voudrais que Boni Yayi démontre sa bonne foi dans la politique en disciplinant d'abord les députés de la minorité parlementaire. Moi, j'attends de Boni Yayi, en tant que président du Parti Les Démocrates, qu'il fasse avancer la démocratie de notre pays. Qu'il me le permette, moi, je ne crois plus en ses paroles, parce que quand il quittait le pouvoir, il nous a dit Ubi et Orbi qu'il deviendrait pasteur et qu'il allait se consacrer à l'œuvre de Dieu.
Mais pour d'autres, on ne saurait priver l'ancien président de son droit à contribuer à l'animation de la vie politique.
C'est un sentiment de joie, de fierté et surtout d'espérance.
Aujourd'hui, avec Yayi Boni à la tête du parti, on ne peut mieux espérer. De toute façon, même bien qu'il n'était pas à la tête de ce parti, il a tout fait pour ce parti. Aujourd'hui, ce n'est que justice qu'il se retrouve à la tête du parti. Je crois que l'accompagnement sera total.
Ça fera du bien au pays, d'autant plus que le pouvoir actuel va chercher à mieux se préparer, à parfaire son mandat et à gagner aussi des points au niveau des populations. Le pouvoir actuel n'a plus droit à l'erreur pour pouvoir se justifier, et surtout en 2026.
Ainsi repositionné sur l'échiquier politique, l'ancien président Boni Yayi porte désormais la voix de l'opposition au régime du président Patrice Talon. Pour l'acteur politique Richard Boni, c'est ce qui pouvait arriver de mieux à l'opposition béninoise.
Ça part relativement de trois observations. C'est qu'il en a totalement le droit, constitutionnellement. C'est qu'il ne veut pas se faire une fois de plus en papa au tête de ce parti. Il faut quand même une personne assez charismatique, telle que Yayi Boni, pour éviter tous les dénois qu'on a connus lors des élections passées.
Sur la question de l'opportunité ou non de cette position de l'ancien président, le gouvernement, à travers son porte-parole, a déclaré que cela n'avait rien de surprenant. Pour Wilfred Léandre Rumbedji, Boni Yayi n'a jamais été bien loin de la scène politique. De Cotonou, Ginette Fleur-Adambé pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
La pollution par les déchets plastiques persiste au Burkina Faso, malgré une loi qui interdit l'importation et la production des sacs en plastique. Des initiatives citoyennes émergent pour contrer ce fléau. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Depuis 2014, la loi portant interdiction de la production, de l'importation et de la distribution des emballages et sachets plastiques non biodégradables a été adoptée. 9 ans après, les sachets plastiques continuent de joncher les rues de plusieurs villes du pays. Selon le gouvernement, les sachets qui sont communément utilisés et autorisés sont ceux qui se dégradent au bout de 5 ans parce qu'ils ont été réadaptés. Mais d'autres plastiques qui ne sont pas visés par la loi en vigueur mettent environ 400 ans pour disparaître. Un désastre pour les associations pour la protection de l'environnement.
Faïza Adiadion, experte en évaluation, gestion des risques et impacts sociaux, coordonnatrice de l'association Mère Nature.
L'association Mère Nature est née le 11 juin 2021 avec comme objectif principal la préservation de l'environnement, tout comme la préservation de l'avenir des générations futures. Nous intervenons principalement autour de 4 axes, c'est-à-dire l'éducation environnementale, la gestion des déchets et assainissement, recyclage, l'énergie renouvelable et l'entrepreneuriat environnemental. Pourquoi avoir fait de ce combat notre cheval de bataille? Tout simplement parce que, en tant que femme, c'est notre manière à nous de laisser un avenir, un environnement sain pour nos enfants, nos futurs enfants.
Aboubakari Soura est aussi environnementaliste. Il est conseiller de l'association Chérifa qui fait dans le recyclage des déchets plastiques.
Nous sommes une association qui œuvre pour la protection de l'environnement. Nous faisons de la collecte, du traitement et de la valorisation des déchets plastiques en des objets utilitaires, notamment les seaux, les bassines, les brosses à laver. Également, nous faisons la presse des déchets en balle. On fait du broyat également, des déchets de plastique dur que nous exportons vers les pays voisins, notamment le Mali et le Ghana. Mensuellement, on peut transformer environ 200 tonnes de déchets plastique.
Le conseiller technique du président de la délégation spéciale de Ouagadougou, Sidi Mahamadou Cissé, dans une interview au quotidien d'État Sidoya, a expliqué que la ville de Ouagadougou génère annuellement 600 000 tonnes d'ordures ménagères avec environ 15% de déchets plastiques, soit environ 90 000 tonnes de déchets plastiques et chaque jour, elle produit 1 600 tonnes environ. Le gouvernement, à travers le ministre de l'Environnement, affirme qu'il a déployé une batterie de mesures pour que la loi sur les sachets plastiques soit appliquée. Il ajoute qu'il a fait application d'un taux de 5% sur la valeur ajoutée de l'importation et la fabrication des sachets plastiques biodégradables. Pour la quantité de sachets plastiques importés, le gouvernement dit avoir autorisé 120 000 tonnes de sachets plastiques en 2021. Cette taxe a permis, selon le ministre, de collecter 800 millions de francs CFA en 2022 et plus d'un milliard en mai 2023. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
L'écrivain tchadien Nadi Kimo Benoudjita présente à Libreville deux ouvrages, Manteau de sang sur le Mandoul et Tchad, l'impossible cohabitation pacifique nord-sud. Les deux livres examinent la gouvernance politique et les rapports conflictuels entre les communautés nord et sud du Tchad. Le point avec notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiang Nze.
Nous sommes arrivés à un paroxysme de situation politique inextricable.
L'impossible cohabitation pacifique nord-sud de l'écrivain tchadien Nadi Kimo est un essai politique motivé par la création presque artificielle de son pays. Selon lui, il s'agit d'un des difficiles héritages de l'ancienne colonie française.
Les Tchadiens ont été forcés, comme la plupart des populations d'Afrique noire, francophone ou bien même colonisées, ont été forcés de rester ensemble, de se construire un espace politique. Les élites tchadiennes, principalement. Les élites tchadiennes en ont été incapables, parce que ce sont les élites qui sont en partie responsables, même si elles sont instrumentalisées.
Un diagnostic froid et incisif sur une situation post-indépendance à l'origine d'interminables conflits qui jalonnent encore l'histoire du Tchad moderne. Béatrice, tchadienne de mère gabonaise, se sent interpellée par le contenu de l'ouvrage.
Moi qui suis plus ou moins sudiste, mais qui ai vécu et grandi dans le nord, je n'ai fait que toute ma vie cohabiter avec des nordistes. Et aujourd'hui, si je vois comment les sudistes se sont lésés, je me demande où est ma place, moi qui me sens quelque part nordiste.
Sous la plume de Nadi Kimo Benoudjita, les réalités du Tchad se retrouvent un peu partout sur le continent. Gervais Bongangoma, journaliste gabonais.
Il y a parfois le choc des cultures qui empêche une saine cohabitation entre différentes communautés ethno-linguistiques. Si on ajoute à cette réalité l'accaparement du pouvoir, parfois par certains groupes sociolinguistiques, ça pose un réel problème.
un problème plus accentué par une mauvaise gouvernance politique et qui amène l'auteur tchadien à alerter sur les risques d'implosion du pays. Au commis de l'État à la retraite, Jean-Prosper Moussouami s'oppose au phénomène de partition des pays africains.
Je pense que nous avons tous pris conscience du fait que nous avons besoin que l'Afrique soit une. Et il faut réfléchir dans le sens de dire comment peut-on faire, malgré les difficultés que l'on observe aujourd'hui, pour aller dans le sens de cette unité de l'Afrique.
Enseignant et journaliste dont 20 ans d'exercice au Gabon, Nadji Kimo Benoudjita consacre sa retraite à l'écriture au Canada où il réside. Auto-éditeur, il est à son 6e ouvrage. Ismaël Obianze, VOA Afrique, Libreville.
En soulignant que son pays poursuivrait ses opérations militaires à Gaza jusqu'à la défaite du Hamas, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a évoqué dimanche les spéculations sur un éventuel accord visant à libérer plus de 200 otages kidnappés par le groupe militant le 7 octobre. C'est un reportage de Veronica Balderas Iglesias, le récit de Abdurrahman Dia.
Au lendemain d'une réunion d'urgence en Arabie Saoudite, ayant regroupé des dizaines de dirigeants arabes qui ont fermement condamné l'offensive militaire israélienne à Gaza, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jake Sullivan, s'est exprimé sur la chaîne ABC pour souligner la position des États-Unis sur la guerre de Tel Aviv contre le Hamas.
Nous croyons à l'importance du droit humanitaire international, ce qui implique de prendre toutes les mesures possibles pour protéger les civils. Dans le même temps, nous continuerons à soutenir la proposition selon laquelle Israël a le droit de se défendre contre les attaques terroristes.
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, interviewé dimanche sur CNN, a réagi sur le sujet.
Je pense que toute perte civile est une tragédie et la faute devrait être directement imputée au Hamas, car il les empêche de quitter la zone de guerre, parfois au bout du fusil. Le Hamas a tiré sur la zone de sécurité et sur le couloir de sécurité que nous avons mis en place.
Par ailleurs, Netanyahou a évoqué les spéculations sur un éventuel accord pour la libération des otages kidnappés par le Hamas le 7 octobre. Il s'est exprimé dans l'émission Meet the Press de NBC.
Le travail extraordinaire accompli par Tsahal, faisant pression sur les dirigeants du Hamas, c'est la seule chose qui pourrait créer un accord. Et si un accord est disponible, nous en parlerons lorsqu'il sera là. Nous l'annoncerons si cela est réalisé.
Le premier ministre israélien a ajouté qu'une fois la guerre terminée, la responsabilité sécuritaire globale de Gaza restera entre les mains d'Israël, mais qu'il est trop tôt pour déterminer qui gouvernera le territoire.
As far as the civilian management of Gaza,
en ce qui concerne une gestion civile de Gaza, nous devons voir les deux choses suivantes. Gaza doit être démilitarisée et Gaza doit être déradicalisée. Et je pense que jusqu'à présent, nous n'avons vu aucune force palestinienne, y compris l'autorité palestinienne, capable de le faire.
Pendant ce temps, sur le terrain, les civils palestiniens continuent de fuir le nord de Gaza, alors que plusieurs agences des Nations Unies ont appelé à un arrêt immédiat des attaques contre les hôpitaux.
Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme, déplacement de populations, influence étrangère. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h en temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales. Le Monde d'aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Eric Manirakiza à son micro, à la mise en onde, Lionel Lunanila Gahima. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes et à la prochaine.